Le village historique acadien vous présente la chronique Dans ce temps-là avec Philippe Basque.
Bonjour Philippe.
Bonjour Claude.
Bonjour Philippe.
Bonjour Sandra.
Vous serez au Salon du livre de la péninsule à partir de jeudi, mais avant de parler du Salon du livre, on va revenir sur la journée de la vérité et de la réconciliation qui était présentée hier.
Oui, c'est ça. Donc c'est cette journée-là pour se réconcilier avec les peuples des Premières Nations, les peuples autochtones. Mm-hmm. Et puis justement, au Salon du livre, il va y avoir une auteure qui va présenter son livre de cuisine autochtone, fait qu'on en parlera également.
Oui.
Puis on sait bien que des autochtones, il y en a dans notre région encore aujourd'hui. On pense aux gens de Papineau et puis à d'autres régions qui sont dans le nord du Nouveau-Brunswick. Puis on a fait des fouilles archéologiques il y a quand même plusieurs années passées qui démontraient une présence depuis plusieurs milliers d'années. Alors, il y a, selon les cours d'eau, hein, les gens se promenaient sur les cours d'eau, puis lorsque les Européens vont arriver, ils vont pratiquer les mêmes chemins, là, les cours d'eau. Puis après ça, là, on va construire des routes là, vraiment carrossables. Là, puis que,
ils sont arrivés avant les Acadiens au Nouveau-Brunswick, là.
Ah, ben oui, c'est ça. Les Acadiens sont ici depuis les années 1600, mais eux sont ici depuis quelques milliers d'années. Là. Mm. C'est entre 3 et 10 000 ans, je pense, si je me rappelle bien. Et puis, on avait fait des fouilles archéologiques dans la région de Shiloh, là, dans la grande rivière Shiloh. C'est là que beaucoup étaient. Et puis, on a trouvé des lieux d'inhumation. Puis, on a fait des fouilles là-dedans dans les années 70. Puis, on a trouvé des objets. Il y a eu aussi des fouilles, disons, moins professionnelles des années 1800. Puis, dans la région d'Inkerman, dans la région de Caraquet, il y avait des endroits-là. On sait aussi que quand les Européens vont... Il va y avoir un contact avec les Autochtones, les Européens. Les Européens, eux, ont laissé des écrits. Puis, on sait de cette façon-là qu'ils se côtoyaient, là. Et puis, Nicolas Denis, qui était installé, il y avait un poste de traite, là, une habitation à Miscou, mais éventuellement, il va aller à Bathurst, là, que lui appelait Nipisiguit en langue autochtone, mais mm-hmm. en français, là, francisé. Lui était sur quand on va à Yua, là, la plage Yua, lui était où c'était le club de golf Gowan Bray. Fait que dans les années 50, je pense qu'ils ont construit le terrain de golf, mm-hmm. ils ont retrouvé les artefacts de l'époque française. Ils ont trouvé peut-être des... Je sais pas s'ils ont trouvé de quoi d'artefacts autochtones, mais je sais qu'ils ont trouvé des petites choses là, côté habitation de Nicolas Denis. Et puis, eux autres, Nicolas Denis, lui, il avait laissé des écrits. Puis, dans ses écrits, il parle de ses relations avec tout ça. Puis, qu'il y avait des Autochtones qui vivaient à proximité de son habitation pour faire la traite de fourrure, mais la traite commerciale, la pêche, toutes ces entreprises à lui. Puis, il va décéder, lui, Nicolas Denis. Puis il y a différentes sources. Là. Il y a des sources qui disent qu'il est mort en France, mais il y a d'autres sources qui disent qu'il est enterré à Bathurst, là, qu'il s'est enterré là. Là. On ne sait pas où exactement. Là. C'est un corps, là, quand c'est d'un champ, c'est comme gros à chercher. Mais il serait enterré jusqu'à le club de golf Gowan Bray, en quelque part là-dedans. Puis dans les écrits, il mentionne ça, que les peuples autochtones sont là. Dans les relations des Jésuites, qui étaient... un groupe de religieux, à partir des années 1530, eux autres vont commencer à écrire puis publier des textes pour expliquer comment les peuples autochtones vivaient au moment où est-ce qu'eux autres rentrent en communication avec eux autres, un petit peu partout au Canada, mais également dans nos régions à nous autres, où est-ce qu'il y avait des missions jésuites. Ben, c'est ça, donc parmi les auteurs qui vont être invités au Salon du livre, il y a Lisanne Obom-Sawin, mm-hmm. qui est une autochtone du Québec, elle. Et puis, elle est chef cuisinière, puis j'ai terminé de lire son livre. C'est un seul livre de cuisine. Fait qu'un livre de cuisine, okay. ça se lit quand même plus rapidement qu'un gros roman de 600 oui. pages.
Avez-vous essayé des recettes?
Oui.
J'ai pas encore essayé les recettes. Il y a des recettes qui sont comme pas essayables non plus, là, ou difficilement essayables.
Dans le sens?
Parce que c'est les ingrédients avoir... qui sont
voilà.
de nature, dans la nature, comme du rhum musqué. Là. T'sais, je sais pas jusqu'à quel point j'irais trapper un rhum musqué dans la rivière okay. du Bordeaux. Puis, ils ont accès à ces viandes-là aussi.
Mm-hmm.
Puis, ils en font de la cuisine. Il y a des recettes qui sont très ressemblantes à nous autres, parce que c'est comme qu'a dit elle, dans son livre, les peuples autochtones ont été en contact avec les Européens. Les Européens ont été en contact avec les peuples autochtones. Puis après ça, on a été en contact avec beaucoup de cuisine puis beaucoup de peuples. C'est la même chose en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Les peuples se côtoient et se copient l'un et l'autre. Hein. C'est ça que c'est les échanges culturels. Puis on a fait la même chose avec les peuples autochtones, que nous, on a pris des légumes, puis eux ont pris à l'esprit, par exemple, la farine, là, la farine de blé, ils n'avaient pas ça, eux autres. Là. Mais eux, nous, on n'avait pas de citrouille, on n'avait pas de courge, on n'avait pas de maïs. Ça vient des peuples des Premières Nations. Fait qu'il y a eu des échanges dans ce sens-là. Et puis, dans le livre, il y a les chapitres sont divisés en chapitres. Puis, elle explique des textes introductifs aux différents chapitres. Puis, pour certaines sections, là, certaines recettes, là, il y a un autre petit texte plus explicatif. Là. Puis, elle dit, elle, que même nous autres, même moi, dans la cuisine, ou vous autres, je ne sais pas vous autres, en tout cas, moi, prendre des affaires de la forêt directement ici, on dirait qu'on n'a pas le réflexe de faire ça. Est-ce que les autres, ils l'ont? Hein?
Ouais.
D'aller chercher des fruits qu'on voit dans la forêt tout
des
le temps.
Champignons,
qui sont comestibles. Pas les champignons.
Non.
Elle disait ça, elle, que les Autochtones avaient peur des champignons, puis ils ne savaient pas lesquels qui étaient toxiques ou pas. Ah. Puis il n'y en a pas beaucoup qui mettaient ça dans la cuisine. Il y avait par rapport à l'utilisation des champignons pour communiquer avec les esprits ou durant une célébration. Puis les Acadiens, c'est la même chose. On mangeait pas de champignons, on ne connaissait pas les champignons. Puis on avait une peur que ça soit toxique. Fait que les deux peuples ont ça en commun, que les champignons, c'est pas quelque chose qu'on prenait. Mais les fruits. De sauvages, là, que les fruits étaient partout, là, dans la forêt. Ça, oui. Puis certaines, comme là, en fin de semaine, j'ai été faire une sortie avec le club de naturalistes. Puis on a mangé ce qu'on appelle les tétines de souris, là, qui est de la salicorne, là, qui ça pousse dans les marais. Ça, tu manges ça, puis c'est comme salé. Elle a une recette avec ça, là, dans son livre. Là. Fait que ça serait quelque chose d'intéressant à apprendre. On peut prendre ça dans la cuisine. Là. C'est comme salé, ça. Puis tu peux mettre ça, là, je ne sais pas ce qu'elle utilise ça pour. Là, mais, en tout cas, c'est intéressant. Puis il y a des recettes qui ont de l'air bonnes, comme n'importe quel livre de recettes. Là. Comme la page couverture, c'est une espèce de potage soupe là, qu'on peut faire avec les légumes, elle appelle ça les trois sœurs, qui est la courge, la fève, et là je ne m'en rappellerai pas, là, mais en tout cas il y a ces trois légumes traditionnels dans leur culture qui est utilisé. Là. Fait que non, c'est un beau livre, c'est un beau livre de recettes aussi. Hein.
Allez-vous faire une présentation avec elle, Philippe?
Oui, c'est pour ça que moi j'en parle, parce que moi je vais la rencontrer. Elle va faire comme chaque auteur invité au Salon du livre, vont faire des présentations. Et puis moi, je fais une entrevue avec elle de 20-25 minutes au Salon du livre. Alors, c'est pour ça que moi j'ai été invité à aller la parler. Parce qu'on va plus comme parler de les différences, mais les ressemblances aussi entre les Acadiens et sa culture à elle. Moi, je fais les tours guidés avec Goûter l'histoire au village acadien. Puis nous aussi, on fait la cuisine. Elle a une version de tarte au bleuet. Elle a une recette de ploy que j'ai vue. D'autres recettes de viande là, qu'on peut manger. Elle a une sauce à spaghetti à partir de viande de chevreuil. Donc, c'est des choses qui ressemblent quand même à nous autres avec la touch autochtone. Il y a des recettes qui sont vraiment traditionnelles. Puis le dernier chapitre, lui, c'est des recettes modernes, là, avec des ingrédients modernes qu'on trouve à l'épicerie. Là. C'est parce que les autres n'avaient pas de carottes puis de différents légumes, là, mais elle incorpore ça. Là, c'est comme que je disais tantôt, on a le pur et dur de la culture, mais après ça, on emprunte des autres, ça fait des beaux mélanges.
Est-ce qu'elle a des recettes avec du poisson aussi?
Oui, il y a des recettes avec du poisson. Il y a des recettes comment faire les ingrédients, comme comment fumer le poisson, je pense. Là. Il y en avait un, c'était ça, le saumon. Je pense pas, j'ai vu le truite, mais je sais que le saumon était là.
Okay.
Certains aliments comme ça. Mais comme que je dis, il y a des aliments qui sont, disons, plus de culture autochtone que nous autres. On goûte pas trop, comme l'écureuil gris, par exemple. Ouais. Nous autres, on n'a pas ça dans notre région, mais ailleurs au Canada, il y a ce type d'écureuil-là. Mm.
Et c'est quand votre présentation au Salon du livre, exactement? Est-ce que vous le savez?
Moi, j'en ai trois différents. J'en ai samedi puis dimanche.
Mais celle avec cet auteur-là?
Ah, je me rappelle pas. Okay. Je pense que c'est samedi, là, parce qu'il y a beaucoup de petits conférences, mais petites entrevues comme ça, une vingtaine de minutes au salon, tour à tour. Là. Je pense que c'est le samedi, mais il y en a vendredi, samedi, dimanche. Il faut vraiment consulter l'horaire, parce qu'il y a une vingtaine d'auteurs, disons pour adultes, là, qui est invité, puis il y a une dizaine, quinzaine jeunesse qui est également là, en plus de tous les autres auteurs qui vont être aux différentes tables des différentes maisons d'édition pour faire des sessions de signature de livres.
Ben oui, vous allez en faire des dédicaces. On va retrouver presque tous vos livres en fin de semaine, Philippe?
Oui, moi, je suis là jeudi, vendredi pour les dédicaces. Puis samedi, dimanche, je suis là pour les différents événements. Mm-hmm. Comme par exemple, dimanche, on a une table ronde avec deux autres auteurs des livres par rapport à l'histoire. Donc, Marc Poirier, qui est chroniqueur dans l'Acadie Nouvelle, il y a une chronique là tous les semaines là, qui parle de différents sujets sur l'histoire. Je pense que la dernière ou deux semaines passées, c'était Pascal Poirier qui était le premier sénateur acadien.
Oui.
Puis lui, il ne se limite pas seulement à l'acadianité. Là. Des fois, il parle d'un sujet plus canadien.
Mm-hmm.
Mais lui, il a deux livres, ce salon-ci. Il y a un recueil de toutes ces différentes chroniques que j'ai pas lu, moi j'ai pas vu ce livre-là encore. Puis l'autre c'est sa biographie sur le père Maurice Leblanc, que les gens de Batters vont s'en rappeler parce qu'il a été longtemps pas prêtre, mais il a été longtemps professeur à l'Université du Sacré-Cœur, qui est l'Université du Sacré-Cœur, qui était le collège
communautaire
auparavant.
Oui.
Auparavant, c'était une université, ça paraît comme l'Université de Moncton.
Oui.
Fait que lui, il enseignait là, il y avait des chorages. Moi, je ne l'ai pas connu, ce monsieur-là, mais je sais qu'il venait souvent aux fêtes des anciens durant l'été, là, les anciens du collège ou les anciens de l'Université du Sacré-Cœur se rencontraient souvent, là. Au collège, là, à Batters.
Mm-hmm.
Puis lui, il venait le bas de Pop Nico, hein. Puis il était âgé, puis il conduisait le bas ici encore. Là. Fait qu'il est quand même décédé quelques années passées. Puis Marc Poirier a fait sa biographie. Là. Fait qu'il y a la biographie à Maurice Leblanc. Puis il y a son livre de recueil de ses chroniques sur qu'il y a dans l'Acadie Nouvelle. Là. Puis l'autre, c'est Roland... l'autre, c'est Roland Daigle dans la table ronde dimanche. Et puis lui, il a fait des bandes dessinées. Moi, je l'ai trouvé une des deux. Là. Ça s'appelle Alerte à Richibouctou. Puis c'est toujours un sujet historique. Là. Ça, c'est Alerte à Richibouctou. Elle a été publiée il y a 3-4 ans passés. Puis sa nouvelle, ben là, on pourrait l'acheter au Salon du Livre. Là. Je ne me rappelle plus du titre. Là. Mais Alerte à Richibouctou. L'alerte, c'est que il y a un... Je ne sais pas si c'est un prisonnier. Je ne me rappelle plus. Là. Je l'ai lu, c'est un petit bout. Ou en tout cas, c'est un militaire allemand durant la Seconde Guerre mondiale qui arrive à Richibouctou. Là, puis qui va comme... Évidemment, le village va être en sens de dessous, là, puis
mm-hmm.
Il y a une sorte de péripéties qui arrive pendant la bande dessinée qu'on peut lire. Mais le sujet, c'est ça, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, puis il y a un militaire allemand qui arrive proche de Richibouctou. Là. Fait que c'est un peu ça le thème de cette histoire-là. Fait que lui, il va parler de cette histoire-là, mais comment on utilise l'histoire dans les livres, là, tout ça. Mm.
Ouais, parmi
les autres auteurs, rapidement, il y a Gabriel Arsenault, qui va être là avec la biographie de Caillouche.
Oui, j'ai eu Caillouche, plaisir. J'ai commencé à faire la lecture, vraiment intéressant.
Oui, moi, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas lu encore, parce que okay. J'achète des livres et je ne les lis pas tout le temps. il manque de temps. Il y a lui qui va être là. Il y a Ghislain Basque, qu'on a déjà parlé dans la chronique,
oui.
Qui va être là avec son livre de...
Les histoires,
Le temps de rire. Puis il y a Annette Boudreau, que je trouvais qui est un thème historique un petit peu aussi, qui est sur la langue... je ne me rappelle plus du titre, là, mais elle a sorti quelques livres, Annette Boudreau, sur la langue acadienne, puis le parler. Là. C'est quelque chose comme parler mal ou parler comme du monde, le titre. Là. Puis elle parle de l'accent acadien, puis comment c'est perçu, puis les différents accents, puis le chèque, puis le parler acadien. Fait que ça, c'est son livre à elle, là, que c'est linguistique, mais c'est comme historique en même temps, là, de parler de la langue acadienne.
Ben, on va aller vous voir en fin de semaine au Salon du Livre. Merci beaucoup, Philippe.
Ben, de rien, à la semaine prochaine.
Envie de prendre une marche, mais tanné de votre circuit habituel? Profitez de la saison des marcheurs au Village historique acadien. De la mi-septembre au mois de mars, le site historique est ouvert gratuitement aux marcheurs tous les jours, de 8h à 16h, quand le temps le permet. Avant de partir, vérifiez l'état du sentier en visitant le www.facebook.com/villagehistoriqueacadien.com. Les chiens en laisse sont acceptés, tout comme les vélos. Bonne randonnée!
Ce samedi.